Si vous venez de vous joindre à nous, vous êtes dans l'émission Le Débrief, votre rendez-vous d'infos en fin de journée à l'antenne de CILS FM 107,9. Merci d'être à l'écoute. On parle à présent d'un architecte britanno-colombien, un architecte qui s'est illustré dans la province et de par le monde. J'ai au bout du fil Jean-Christophe Leblon, lui-même architecte et spécialiste des questions d'environnement et d'aménagement du territoire. Bonjour Jean-Christophe.
Oui, bonjour Alexis.
Alors, de qui s'agit-il? On parle vraiment d'un des architectes les plus connus de la Colombie-Britannique.
En fait, on pourrait même dire que c'est probablement l'architecte canadien le plus connu de par le monde.
Carrément.
C'est Arthur Erickson, donc qui est natif de Vancouver.
D'accord.
Né en 1924 et qui est décédé il y a quelques années, en 2009.
Donc, oui.
Une longue carrière, il a construit plus de 500 projets.
Voilà, ça faisait longtemps qu'on voulait parler de lui dans l'émission. C'est vraiment un phare de la discipline au Canada. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu à quelle école il appartenait et comment il s'est illustré?
Oui, Arthur Erickson, donc en fait, a débuté sa pratique dans les années 50. Donc, c'est vraiment un architecte qu'on pourrait dire de l'époque épique du modernisme. Donc, où il y avait une espèce d'enthousiasme et d'optimisme qui marquait la profession d'architecte. Et puis, il y avait un côté très très hardi dans la façon dont l'architecture se pratiquait à l'époque avec beaucoup de, je veux pas dire ambition parce que c'est pas nécessairement de l'ambition, mais simplement
une allégresse,
un optimisme qui faisait qu'on posait des gestes très grands et très forts, osés.
Il avait étudié l'architecture à McGill. Est-ce que il était un disciple de Le Corbusier, par exemple?
Ben, c'est clair qu'il s'inscrit dans le mouvement moderne. Donc, est-ce qu'il était un disciple de Le Corbusier? C'est clair qu'il y a des influences de tous les grands maîtres de l'architecture moderne dans son travail.
Oui.
Il y a des influences de Le Corbusier, il y a des influences des architectes du Bauhaus comme Walter Gropius, Marcel Breuer. Il y a des influences de Wright aussi dans son rapport au paysage, je dirais, parce que ce qui distingue, d'après moi, Erickson des maîtres européens du modernisme, c'est son rapport au paysage qui est très américain, non pas dans le sens de États-Unis, mais dans le sens d'un rapport au paysage qui parle du continent américain, si on veut.
Ah oui, d'accord. Mais avant tout, est-ce qu'on peut dire ce que c'est exactement le mouvement moderne en architecture? J'imagine qu'il a rompu avec d'anciennes formes.
T'as raison. C'est important de faire la mise en contexte parce que souvent les gens, entre autres, confondent architecture moderne et architecture contemporaine.
Oui.
Alors que le modernisme, c'est vraiment un mouvement qui a ses racines dans l'après Première Guerre mondiale en Europe et qui s'est exporté en Amérique beaucoup après la Deuxième Guerre mondiale, alors qu'il y a beaucoup d'architectes allemands qui avaient fui l'Allemagne nazie et qui sont beaucoup des architectes du Bauhaus, donc l'école de construction allemande là, qui était si importante, d'art appliqué, d'architecture, de design, et donc qui étaient venus prendre refuge aux États-Unis et puis donc qui ont grandement influencé l'architecture américaine à partir de ce moment-là. Donc, évidemment, les grands noms de l'architecture moderne, c'est Le Corbusier, Mies van der Rohe, Walter Gropius, et ainsi de suite. On peut pas dire que Wright s'inscrit, lui, qui est américain, s'inscrit complètement dans le courant moderne. Et puis, ça a distingué de l'architecture contemporaine, dans le sens que l'architecture contemporaine, c'est ce qui se fait maintenant. Et puis, il y a toutes sortes de courants qui sont souvent inspirés du modernisme, qui s'appuient sur les acquis du mouvement moderne, mais qui quand même, il y a des préoccupations esthétiques, technologiques, environnementales, là, qui sont particulières à notre époque et qui se distinguent. distingue de celle du mouvement moderne.
Mm-hmm.
Évidemment, on associe au modernisme l'usage du béton, souvent brut, du verre et de l'acier. Et puis, c'est ce qu'on retrouve, entre autres, dans l'architecture de Ericsson, où le béton, il affectionnait beaucoup le béton, et il le dit souvent. Et puis, le béton est très présent dans ses ouvrages, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas nécessairement une sophistication dans ses ouvrages aussi. Là, un des exemples les plus frappants de son architecture et vraiment dans tout ce qu'elle a d'unique à lui, là, c'est le musée d'anthropologie de UBC qui est à Vancouver.
Oui.
Donc, c'est une structure en béton, mais qui est en même temps très légère et qui est inspirée par la présence de poutres et de colonnes, en fait, de l'architecture des Autochtones de la côte ouest. Et puis c'est là qu'il y a
ce qui était quand même assez précurseur ou visionnaire à l'époque où la construction a eu lieu.
En tout cas, c'est un peu ce qui le distingue. Lui, c'est sa sensibilité quand même au lieu.
Oui.
Et puis son architecture était quand même très, très, très identifiée à la Colombie-Britannique. On peut dire en quelque part qu'il a joué le rôle au niveau de l'architecture que une peintre comme Emily Carr a joué au niveau de l'art
oui.
pour un peu l'identité de la côte ouest.
Alors, on a des immeubles Ericsson ici à Victoria. Il y en a, bien sûr, ailleurs dans la province et à Vancouver, évidemment. Toi, quand tu penses à cet architecte, quel immeuble te vient à l'esprit en premier?
Ben, comme je disais, probablement un des plus marquants, c'est le musée d'anthropologie à Vancouver. Mais sinon, il y a beaucoup d'immeubles assez vraiment frappants. Et puis, comme
oui.
je dis, il faut, c'est pas nécessairement des immeubles qui répondent à nos préoccupations actuelles. Donc, faut les remettre en contexte.
Bien sûr.
Comme je dis, il y a beaucoup de béton brut. C'est pas nécessairement des choses qu'on affectionne beaucoup de nos jours. Mais par exemple, c'est lui qui a fait le pavillon L'homme dans la cité. À Expo 67, donc c'est un pavillon temporaire, donc qui est
oui.
démonté, mais vous pouvez en retrouver des photos sur Internet assez facilement. C'était une espèce de pyramide fabriquée avec des énormes poutres en contreplaqué. C'est un immeuble absolument spectaculaire. C'est lui aussi qui a fait le pavillon du Canada à l'Expo universelle d'Osaka en 1970.
D'accord.
Un pavillon extrêmement futuriste. Et puis ça, c'est un autre courant qu'on retrouve dans son architecture. Aussi bien, il y a vraiment une sensibilité puis une inspiration qui vient du lieu, des caractéristiques de la côte ouest là, au niveau de l'usage du bois, d'énormes pièces de bois qui rappellent un peu la taille impressionnante des forêts et des arbres de la côte ouest et qui est inspirée par l'architecture des Premières Nations de la côte ouest aussi. Il y a un courant très, très, très futuriste dans son architecture que je lis un peu à l'optimisme de cette époque-là.
D'accord. Est-ce que les architectes d'aujourd'hui ont pris le relais? Est-ce qu'il y en a qui se réclament d'Ericsson dans leur travail tout en l'ayant adopté à leur propre pratique, bien sûr? Mais est-ce qu'il y a de nombreux architectes qui indiquent qu'ils figurent parmi leurs inspirations?
C'est une bonne question. Je n'ai pas de réponse précise. J'ai lu que c'est clair qu'il a été un mentor auprès de beaucoup d'architectes de la côte ouest qui pratiquent
oui.
actuellement. Donc, les firmes en vue à Vancouver sont certainement très, très, très conscientes de son bagage dans leur pratique. En même temps, Ericsson est probablement le seul architecte canadien qu'on peut vraiment élever au niveau de maître, si on veut. Donc, c'est certain qu'il a eu une influence et qu'il a une influence qui n'est pas nécessairement nommée, mais qui est très présente de façon probablement souvent inconsciente dans l'architecture contemporaine. C'est quelqu'un à mettre... qu'on peut mettre au rang d'autres architectes qui ont vraiment marqué l'identité de certains pays, comme Alvar Aalto pour la Finlande.
Oui.
Lui a vraiment joué ce rôle-là, surtout encore une fois au niveau de la côte ouest, qui avait une identité, disons, plus jeune que des provinces comme le Québec et l'Ontario, et qui, lui, il a activement participé à construire cette identité-là, en fait.
D'accord. Donc, un architecte à découvrir, ceux qui sont, ceux dont la curiosité est piquée, évidemment, on les encourage à faire des recherches d'images dans leur moteur de recherche préféré. Ils vont trouver de nombreux exemples. J'imagine qu'il y a même des sites qui se consacrent essentiellement à son travail.
Jean-Christophe? Oui, il y a une fondation Arthur Erickson, et puis il y a aussi un site web officiel, parce qu'il faut pas oublier que il est décédé en 2009 et puis il a pratiqué jusqu'à la fin. Il y a même des constructions, je me souviens plus précisément lesquelles, là, mais il y avait deux constructions que j'avais vues qui avaient été construites après sa mort, en fait,
dans les
années qui ont suivi sa mort, parce que vraiment que les projets étaient déjà lancés. Donc, c'est arthurerickson.com, si je me souviens bien, ou .net. Avoir.
Je me demandais justement s'il avait travaillé jusque à la fin et t'as comme entendu ma question et par ailleurs je me demande aussi s'il aurait épousé de façon ouverte et volontaire les certifications LEED par exemple, tous ces éléments qui entrent désormais en ligne de compte. On s'efforce de créer des immeubles verts, des immeubles qui ont une empreinte moindre sur l'environnement. Crois-tu qu'il aurait été ouvert à ces questions?
Écoute, c'est une très bonne question que je vais en fait devoir que cette génération d'architectes, quand ils parlaient d'une relation au territoire et au paysage, c'était pas nécessairement au niveau des technologies éco-énergétiques, des choix de l'impact environnemental des matériaux, puis c'était plus à un niveau esthétique. Donc, je serais curieux moi-même de savoir s'il était encore là, de lui poser la question.
Bon, mais laissons cette interview sur cette question, sur cette interrogation. Jean-Christophe, merci beaucoup de nous avoir parlé de cet architecte qui figure encore aujourd'hui comme l'un des plus importants de l'histoire canadienne.
Merci à toi, Alexis.
À bientôt, merci.